So, may we start?
Et maintenant, les ateliers radiophoniques de Canal B.
Bonjour à toutes et tous. Nous sommes Anaïs Hiver et Laurie Soulabaille, formatrices en FLE, français langue étrangère à langue et communication. Pour ce nouveau projet radiophonique, avec le groupe de stagiaires que nous avons accompagnés, nous avons choisi de parler de l'alimentation. La nourriture rassure, réconforte, elle est le lien entre le passé et présent, l'ici et l'ailleurs. C'est ce qui reste, ce qui tient, dans un environnement mouvant où les incertitudes ponctuent les quotidiens. C'est ce qu'on partage avec nos proches, mais aussi avec l'étranger, comme une carte de visite qu'on aurait plaisir à offrir. Manger, c'est universel, mais on ne mange et ne cuisine pas toutes et tous de la même façon. Les stagiaires ont envisagé la dimension écologique, la dimension géographique, culturelle et sanitaire de l'alimentation, en dévoilant des mécanismes propres à leur pays d'origine. Ils se sont questionnés sur les régimes alimentaires, et notamment sur le véganisme, avec Agathe Cornil, que l'on remercie du temps qu'elle nous a accordé. Notre alimentation, c'est aussi notre consommation. Le groupe a pris un malin plaisir à parodier des publicités de produits ultra transformés. On remercie l'implication des apprenants Sadaf, Abdirani, Cher, Firdos, Anan, Sarah, Igor, Carlos, Safia et Tamar pour avoir partagé une spécialité de leur pays, leurs habitudes alimentaires et leur rapport à la nourriture. Nous avons une pensée spéciale pour Chokri, Massagid et Tarek qui n'ont pas pu mener le projet jusqu'au bout.
Vous allez écouter aujourd'hui le second volet de l'émission des stagiaires de langue et communication autour de la cuisine du monde. Et ça commence tout de suite avec l'interview des membres de l'association VRAC de Rennes.
Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes les stagiaires en français à langue et communication.
Nous préparons une émission de radio avec Canal B sur la cuisine du monde. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Vous pouvez vous présenter.
Je suis Anaïs Minfray, co-coordinatrice de l'association VRAC Rennes.
Bonjour, je suis Paul, adhérent, administrateur, membre du bureau de l'association VRAC Rennes.
Bonjour, je suis Chantal Delanoé, je fais partie aussi du conseil d'administration de VRAC Rennes et j'organise des ateliers de cuisine ayurvédique avec VRAC.
Bonjour, donc je m'appelle Morgane, moi je travaille à la MJC Bricchini et je suis bénévole à VRAC. J'anime un atelier de français également et je fais beaucoup de cuisine du monde sur cet atelier.
Depuis de quand existe l'association ?
L'association, elle a été créée en septembre 2020 et on a commencé les groupements d'achat à Villejean et Maurepas en décembre 2020.
Depuis quand travaillez-vous chez VRAC ?
Eh ben moi, depuis le début, depuis que j'ai monté l'association, bien avant septembre 2020, du coup.
J'ai adhéré à l'association, je pense, en février 2021.
Moi, ça fait, je pense, depuis 2022 que je suis adhérente à l'association. Et depuis 2024, je fais des ateliers avec VRAC.
Ben, moi, j'ai contacté Anaïs, je pense, en 2020, quelques mois après. Donc, je pense, en 2021, on a commencé à travailler sur le quartier de Bricchini avec VRAC. Et du coup, je suis devenue adhérente tout de suite.
Quel est votre rôle dans l'association ?
Eh ben, donc moi, je suis sur la partie coordination. Donc, je m'occupe de tout le développement de l'activité, toute la partie gestion, les RH, tout le côté développement, même si j'ai toujours un pied sur le terrain, puisque je suis référente des groupements Villejean-Kennedy et puis Villejean-Université Rennes 2 pour les étudiants.
Il y a une charte que l'on remet à nos adhérents et ils s'engagent à faire quelques heures de bénévolat lors des groupements de vente au plus simple, c'est-à-dire de leur quartier.
Le bénévolat, c'est aider à la distribution des produits et c'est une fois par mois par groupement.
D'accord.
Voilà. Et donc tous, on essaye de donner quelques heures dans l'année.
Combien de personnes travaillent chez VRAC ?
Il y a 3 personnes qui travaillent chez VRAC. Donc, il y a moi-même, je suis à 100% de mon temps. Il y a ma collègue en co-coordination qui s'appelle Nolwenn. et elle travaille du lundi au jeudi. Et ma collègue Claire, qui, elle, travaille à 100%. Et elle est plutôt sur la partie lien avec nos producteurs sur les approvisionnements et toute la partie logistique en lien avec les groupements d'achat.
Comment fonctionne le système d'achat groupé?
VRAC existait déjà dans d'autres villes et VRAC est né à Lyon. Donc c'est une initiative qui est née d'une idée entre la Fondation pour le logement des défavorisés et un bailleur social lyonnais. Et l'idée, c'était de travailler sur le reste à vivre des locataires de logements sociaux. Et notamment, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas les moyens pour continuer à bien se nourrir? Donc c'est comme ça que VRAC est né. À Lyon. Ça, c'était en 2011. Et en fait, moi, j'avais entendu parler de ce projet via une vidéo que j'avais vue. Et à Rennes, je me suis dit, mais il est génial, ce projet. Je pense qu'il y a des gens qui auraient ce même type de besoin qu'à Lyon. Et il faut qu'on fasse une étude, qu'on voit, qu'on aille donner rendez-vous aux gens dans les quartiers pour voir s'il y a des besoins et si ça les intéresse. Et si ça les intéresse, on peut commencer à monter des groupements. Et voilà. Et après, il y a eu plusieurs personnes qui étaient intéressées, qui voulaient bien m'aider. Donc, on a commencé à créer un groupe de bénévoles. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est née l'association. Et ces différentes personnes, après, se sont engagées dans le conseil d'administration, etc., etc. Donc, il y a trois types de tarifs, en fait, à VRAC. Je vais pas parler du tarif solidaire parce que c'est un tarif où, là, les gens, ils payent plus que le prix coûtant, donc le prix du producteur. Donc, c'est pas celui-ci qui est intéressant ici. Les deux dont je vais vous parler, c'est le tarif coup de pouce et le tarif prioritaire. Le tarif coup de pouce, c'est moins 30% du prix coûtant et il est accessible aux personnes qui ont un quotient familial en dessous de 450, plus les personnes demandeuses d'asile et aussi également les personnes, les étudiants boursiers, échelon 2 à 7. Voilà. Et donc, ensuite, il y a le tarif prioritaire. Plutôt pour les personnes qui ont de faibles revenus, en fait, qui paient pas d'impôt sur le revenu. Et là, dans ces deux cas-là, on fait des réductions grâce à une aide d'État. Et cette aide d'État, elle nous vient du fonds Mieux manger pour tous de l'État. En fait, c'est un fonds qui était destiné à l'aide alimentaire à la base. Et l'idée, c'est que l'aide alimentaire, aujourd'hui, on se rend compte que les produits sont pas toujours très bons ou très sains pour la santé. Et l'idée de cette aide-là, c'était de transformer les denrées de l'aide alimentaire et d'aller vers plus de produits durables, plus de produits bons pour la santé, sains, bruts aussi également. Et donc c'est grâce à ça qu'on peut permettre de faire des réductions pour les personnes qui en ont le plus besoin.
Un exemple simple, j'achète un produit à 1 euro le kilo. Si je suis avec 30% de réduction, j'aurai 30 centimes de moins, je paierai 70 centimes le kilo. Si je suis solidaire, je vais payer 15%, donc je vais payer 1,15€. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple.
C'est ce qui permet d'équilibrer, en fait. Les solidaires soutiennent les autres, finalement, et c'est ce qui permet d'avoir cette triple tarification, en fait.
Alors, pour les solidaires, ceux-là, ils payent plus 15%, mais cela reste intéressant. Et je vais citer l'exemple de l'huile d'olive. L'huile d'olive, nous l'achetons 6,57€ le litre. C'est de l'huile d'olive qui vient d'agriculture biologique, elle vient d'Espagne, c'est une coopérative. Donc 6,57€, vous ajoutez 15% dessus, eh bien ça fera encore bien moins cher que les huiles d'olive bio qui sont vendues dans les grandes surfaces.
Quelle sorte de produits proposez-vous, à quel prix?
Alors, ce sont plutôt des produits secs, tout ce qui est farine, pâte, riz, tout ce qui est légumineuse aussi, et céréales. Mmh. Il y a des produits frais aussi, comme des œufs et du pain, et du fromage. Et ensuite, il y a tout ce qui est produits d'hygiène.
Ouais, mais il y a aussi des produits frais. Il y a aussi un agriculteur bio qui amène ses produits.
Ah oui, voilà. On a des légumes et des fruits aussi.
Et on a tout ce qui est épicerie, donc avec des fruits secs aussi, qu'il y a du chocolat, des noisettes, des oléagineux, enfin voilà. Et puis aussi tout ce qui est cosmétique. Et puis les produits de la vaisselle, produits pour l'hygiène en fait, voilà, alimentaire. En cosmétique, c'est plus un producteur local? Je crois, au niveau savon, notamment.
Le savon, oui. C'est une productrice, c'est la savonnerie L'Aubergine. qui est basée dans le 35, donc dans le département. Après, pour les produits comme la lessive, le shampoing, le gel douche, c'est plutôt une entreprise certifiée qui s'appelle ça s'appelle les laboratoires Gravier. Eux, ils sont éco-certifiés. Voilà. On ne dit pas bio pour le non alimentaire, on dit éco-certifié. Quand c'est des entreprises qui rejoignent nos valeurs au niveau non alimentaire.
Qui peut bénéficier de ce système ?
En fait, tout le monde peut bénéficier de ce système-là. C'est vraiment ce qui fait la différence, c'est la tarification qu'on choisit en fonction de sa situation. Il reste quand même un critère, mais qui n'est pas un critère en tant que tel, dans le sens où on va privilégier les habitants des quartiers prioritaires, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un... On a des gens qui viennent de Melès, des gens qui viennent du Reu, des gens qui viennent de Taurigny-Fouillard. C'est plutôt leur situation économique qui va changer la donne, parce que notre priorité pour nous, c'est les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est pour elles qu'on fait ce système de groupement d'achat. Presque 80% des adhérents, puisque l'idée, c'est vraiment d'aider des personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est vraiment d'aller vers des personnes qui vont bénéficier de la tarification moins 30 et moins 10.
Donc, il y a un nouveau groupement qui va s'ouvrir aussi à Saint-Jacques-de-la-Lande dans un mois, en avril.
Qu'est-ce que cette expérience apporte aux bénéficiaires ?
Ça permet d'avoir accès à des produits qui sont... sur le marché assez cher, et là du coup c'est à prix coûtant, quoi. Voilà, c'est quand même loin d'être négligeable, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent. Voilà, de bien manger avec des produits bio et locaux, et
ça permet de bien permet de bien manger, en fait, pour pas trop cher, donc c'est quand même appréciable. Moi, je trouve aussi que c'est un partage d'expérience. Quand on participe aux distributions, on est plusieurs bénévoles. Enfin, je trouve que c'est chouette à partager, en fait, ce truc-là. Voilà. Moi, ce que ça m'apporte aussi, c'est dans le cadre de mon travail, je peux aussi, du coup, faire profiter d'autres personnes des produits vrac. On fait des ateliers de gâteaux, tout ça. On utilise essentiellement les produits de vrac. Voilà, donc c'est...
Ça crée du lien.
Ah ouais, ça crée du lien, ouais, bien sûr. Ouais. Rien que le fait de cuisiner avec ces produits, voilà, ça permet de rentrer dans un système, en fait, plus économique et écologique. Parce que du coup, on travaille aussi, ça permet de travailler sur le tri des déchets. Ça permet, parce que on achète tout en vrac. C'est-à-dire, on vient avec nos bocaux, on vient avec nos sacs, on vient avec, voilà. Donc, ça permet aussi de travailler là-dessus, en fait, sur le tri des déchets. Enfin, ça ouvre plein de portes.
Est-ce que les gens commandent au préalable, ou disent sur soit le site, ou moi, j'aimerais 2 kilos de farine pour que vous puissiez passer commande. En fait, ça marche comme ça ?
En fait, il y a une date de commande, de précommande, on va dire, pour que justement l'association puisse commander le stock qu'il faut pour par rapport aux commandes.
Ouais. Il y a une dizaine de jours dans le mois pour précommander. Ouais. Sur un mois, en gros, il y a une dizaine de jours dans le mois où on précommande. Ouais. Et ensuite, on clôt les commandes et 7 jours après ont lieu les distributions.
Est-ce que l'association accepte de nouveaux bénéficiaires ?
Alors oui, on accepte encore des bénéficiaires. Alors chez nous, on les appelle pas bénéficiaires, parce que bénéficiaire, c'est un peu... voilà, il y a un rapport de force entre l'association et la personne. Nous, on dit adhérents, mais on accepte encore des adhérents. Alors il y a peu de place, enfin il y a un peu moins de place pour les tarifs, comme je vous disais, les tarifs solidaires, dans la plupart des groupements, on arrive quasiment au maximum de ce qu'on puisse accepter. Par contre, sur les tarifs moins 10 notamment, et sur quelques-uns à Villejean par exemple, le tarif moins 30, on en accepte encore. Donc voilà, ça dépend vraiment des groupements. Dans tous les cas, il faut téléphoner, envoyer un petit mail ou venir nous rencontrer lors des permanences de prise de commande qu'on fait dans les quartiers. Et c'est des moments privilégiés pour vous, pour qu'on puisse discuter, échanger et vous expliquer dans le détail comment ça marche et s'il y a de la place.
On parlait tout à l'heure de comment savoir si on peut adhérer ou pas. Alors, on parle d'Internet, de téléphoner et autres, et c'est pas toujours facile de téléphoner. Si vous avez des difficultés, vous êtes en apprentissage de la langue, sachez que vous pouvez vous adresser également à votre centre social de quartier pour leur demander est-ce que VRAC, ils sont par là. Pour vous le sachiez, nous avons actuellement 5 lieux de distribution, le quartier Villejean, également à Villejean, nous avons l'université, donc Rennes 2 et Villejean. Le Blône, au centre social, on peut leur demander parce qu'on vend aussi là-bas. Bréquigny, Morgane, voilà, ça se passe à la MJC. Et nous avons également Maurepas. Donc Maurepas, même chose, vous pouvez demander au centre social et ça se passe au PAM, le pôle associatif de la Marbonnais. Donc ces 5 lieux et on va ouvrir au mois d'avril également un 6e lieu qui est à Saint-Jacques-de-la-Lande. Et
à l'Épi-Condorcet, c'est en plein cœur du quartier. Ça représente 613 adhérents là, à la fin de l'année 2025.
Est-ce que vous avez autre activité?
Alors moi, je fais effectivement pour VRAC des ateliers de cuisine ayurvédique puisque je suis thérapeute en Ayurveda et une ancienne infirmière. Donc voilà. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde qui a plus de 6000 ans d'histoire et qui est encore très actuelle aujourd'hui et qui est centrée sur la personne. Donc du coup, il y a une lecture bien spécifique avec l'Ayurveda et qui fait que manger certaines choses qui seront différentes, par exemple en hiver qu'en été, puisqu'on se base à la fois sur la saison, à la fois sur l'âge de la personne, et à la fois aussi au niveau de l'heure de la journée, mais aussi sur son feu digestif, donc c'est-à-dire sa capacité digestive à bien digérer, etc. Et donc, on va jouer avec les épices, avec les saveurs.
Par rapport aux activités, par exemple, je sais qu'il y a un vrai enjeu aussi, c'est travailler sur comment cuisiner les légumineuses. Et ça, dans les cuisines du monde, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et d'être dans le partage de recettes pour cuisiner les légumineuses, enfin voilà, pour moi, c'est un enjeu et c'est important.
Et je rebondis, mais en tout cas, on organise une fois dans l'année un grand concours de cuisine pour promouvoir les recettes culinaires des différentes traditions culinaires. Au-delà de ça, on a une programmation. En fait, tous les mois, il y a des animations. Et tous les mois, on envoie à peu près un mois à l'avance les animations aux adhérents pour qu'ils puissent s'organiser et puis participer. Et donc là, on en a parlé de deux qui tournent autour de la cuisine, les échanges, la pratique culinaire, la mise en avant des talents culinaires dans les quartiers. Et il y a aussi il y en a trois, il y a celui-ci, puis après il y a aussi les objectifs de faire commun, de se sentir communauté en tant qu'adhérent VRAC, donc vraiment de rencontrer d'autres personnes, de se sentir appartenir à une communauté et de moins se sentir seul aussi parce que on peut faire des jolies rencontres à VRAC. Et ensuite il y a un autre point qui est assez intéressant aussi, c'est le lien avec les producteurs sur toute la partie alimentation, consommation, agriculture. Donc là, on organise beaucoup de visites à la ferme et des chantiers. Donc les chantiers, c'est quand vous, en tant qu'adhérent, vous participez pour aller aider un agriculteur sur des petites activités. Par exemple, mettre en bouteille le jus de pomme. Par exemple, aller récolter des poireaux. Ça peut être ce genre de choses. Ou tout simplement aller visiter des exploitations. Mais c'est bien parce que ça permet de savoir, de connaître... quels sont les enjeux de l'agriculture? Pourquoi ils ont choisi de produire en bio? Quels sont ces enjeux-là derrière? Pourquoi ils vendent? À quel prix? En quoi c'est important pour eux? Comment ils arrivent à s'en sortir aussi financièrement? On sait les difficultés que traversent les producteurs en agriculture biologique. Donc voilà, ça permet aussi de créer du lien entre personne qui n'y connaissent rien, faut le dire, parce qu'en fait, on n'y connaît rien. Quand on n'a jamais mis les pieds dans une ferme, c'est difficile. Et agriculteurs qui sont contents aussi de pouvoir valoriser leur travail à travers ça.
Où se trouve l'association?
Alors, l'association, ses bureaux et son local de stockage se trouvent dans le quartier de Maurepas. Donc, l'adresse exacte, c'est le 6 rue de la Perrière, à Maurepas. Donc, juste à côté du métro Gailleul.
Mais par exemple, pour les gens qui ne sont pas encore adhérents, pour vous rencontrer, s'ils ne passent pas par un centre social ou Internet?
En fait, vous allez dans dans un centre social ou un centre culturel ou une MJC comme à Bréquigny. Et en fait, vous demandez vrac et hop, à l'accueil, ils vont vous orienter directement vers la personne à qui s'adresser. Et on va regarder ensemble le site, le catalogue, voilà. Ouais. Voilà.
Et pour la quantité, il y a des limites ?
Oui, en fait, un petit peu, parce que comme les tarifs sont très accessibles, notamment les moins 30 et les moins 10%, et que nous, on a des subventions, mais c'est des subventions dédiées et sur un budget à l'année, il ne faut pas qu'on les dépasse. Donc, on a été obligé de mettre des quotas, entre guillemets, parce qu'il y avait des familles qui commandaient énormément, notamment les produits qui coûtent cher. Et voilà, donc on a, par exemple, sur l'huile d'olive, c'est 5 litres maximum par famille. 5 litres par commande. Mais on avait des familles qui prenaient 3 bidons. Ouais, des bidons de 5 litres. Voilà, les fruits secs, c'est plutôt au kilo. La lessive, les choses comme ça, c'est pareil, c'est par 5 litres. Enfin, ça va quand même, hein. C'est pas non plus... En gros, c'est des mesures qui sont faites pour pas aller dans l'outrance, quoi. Et puis qu'on puisse, nous, parce que comme on vient avec un camion, on était embêtés aussi parce que les quantités étaient tellement énormes à un moment donné qu'on n'avait plus, on dépassait le poids de charge maximum du camion, donc on pouvait plus venir, c'était trop compliqué.
Pause musicale dans l'émission de Langue et Communication sur Canal B. On écoute Gaia Bonfi et son titre Piazza Centrale.
On a per sempre un tempo bello. Si assorbe come l'argento che diventa nero e mi invecchia la pelle a guardare il cielo che diventa petrolio e si mischia la neve che arriva con calma nella piazza centrale. Somiglia a un paese con la sua chiesa centrale dove ti guardano tutti come guarda ogni particolare. Forse dovremmo scappare, amore nel silenzio che diventa morboso, confuso ai passi dei vecchi della piazza centrale.
Thank you.
C'était Piazza Centrale de Gaïa Bonfi sur Canal B. On retrouve tout de suite les stagiaires de langue et communication qui nous parlent de cuisine.
Et maintenant, on va parler du rapport à l'eau potable dans les différentes régions du monde.
Au Soudan, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui vendent de l'eau. Le prix sont cher, $5 pour 10 bidons de 10 litres. Alors que le salaire minimum est de $200 par personne. Le minéral est donc pour les personnes riches. En général, les Soudanais boivent l'eau du robinet, mais elle n'est pas bonne. Il y a beaucoup de microbes. Certaines Soudanais ont des filtres, mais ce sont les personnes qui sont riches. Il y a beaucoup de personnes qui tombent malades avec l'eau. Il y a la malaria, de la maladie du rang de l'estomac.
Dans mon pays, en Somalie, je bois de l'eau du robinet et de l'eau de bli parce que l'eau minérale est chère. J'habitais à Mogadiscio, à la capitale de la Somalie, et l'eau est potable. L'eau minérale coûte $1 pour 10 litres d'eau. Une personne gagne en moyenne $3 à $4 par jour. Ce n'est pas possible.
Dans mon pays, en Afghanistan, si les gens boivent l'eau du robinet, il y a un filtre qui coûte entre 50 et 100 euros. Moi, j'avais un filtre dans ma maison. L'eau du robinet est parfois salée. Il y a des régions où les personnes n'ont pas d'eau à cause de la sécheresse.
En Biélorussie, j'habitais dans la ville de Minsk, la capitale. C'est une région où l'eau est bien, mais il y a des villes où l'eau n'est pas bonne. En français, je bois l'eau du robinet parce qu'elle est propre et il n'y a pas de mauvaise odeur.
En Iran, il y a une compagnie qui s'appelle Saka et qui livre l'eau minérale à la maison dans des bidons de 10 ou 20 litres. Après, on redonne le bidon à la compagnie et elle les redonne de nouveaux bidons avec de l'eau. Avant, on payait 80 centimes d'euros. Maintenant, l'eau est pris et augmente avec les manifestations en Iran. Cela coûte d'euros. Il y a des villes d'Iran où l'eau n'est pas potable du tout.
En Géorgie, je bois l'eau de robinet car l'eau minérale est trop chère. C'est 4 euros le litre. Le SMIC est à 300 euros. L'eau de robinet est bonne en Géorgie. On la boit dans les villes. Dans le village, on boit l'eau de puits. On ne boit pas de l'eau de robinet car elle n'est pas bonne.
Le tri des déchets et la protection de l'environnement ne sont pas partout les mêmes.
Au Soudan, il n'y a pas de tri. On jette le plastique dans le poubelle ordinaire. Des personnes récupèrent les bouteilles en plastique dans la poubelle pour les revendre ou pour les réutiliser. Au Soudan, je ne traite pas mes déchets. J'ai proposé au gouvernement soudanais un projet d'usine de recyclage des déchets en partenariat avec une entreprise française. L'objectif est que le déchet produise l'électricité et des engrais organiques pour l'agriculture. Mais à cause de la guerre, le projet s'est arrêté. Il y a beaucoup de projets qui s'arrêtent au Soudan à cause de la guerre.
Au Pérou, le recyclage est obligatoire. On peut soit donner nos poubelles triées au camion ou revendre nos déchets dans la rue. Par exemple, je peux trier et quand le camion de la poubelle passe, je l'explique. Ça, c'est le sac de carton. C'est là et le verre. Une grande entreprise achète les déchets pour les utiliser et produire de l'énergie. À Lima, il y a 13 millions d'habitants. Donc, c'est difficile de gérer les déchets de tous les habitants. En France, le tri et déchets est bien organisé.
Dans mon pays, Biélorussie, le tri sélectif est ridicule. À côté de leur chaque maison, il y a trois grandes bacs pour les déchets avec des couleurs. Un bac pour le verre, un bac pour le plastique, un bac pour les déchets alimentaires. Un camion ramasse les poubelles et le camion transporte les déchets hors de la ville dans une déchetterie. Il verse tous les déchets, mélange au même endroit, alors que les personnes ont trié les déchets. Les déchets sont recouverts de sable et cela fait une montagne au bout de plusieurs années. Ce n'est pas bon pour l'environnement. Il n'y a pas beaucoup de financement pour le recyclage. En France, le tri est mieux organisé.
Canal B Radio Curieuse.
En France, je jette les bouteilles en plastique dans un sac jaune. Dans mon pays, on garde les bouteilles en plastique à la maison et on sort dans la rue pour les vendre. En Afghanistan, je faisais mes courses au marché et dans des petits magasins. J'achète un vrac de riz, de légumineuses, de légumes, de fruits et de féculents. L'épicier m'a donné des sacs plastiques gratuits. Quand je rentrais à la maison, je jette le sac en plastique à la poubelle ou quand j'avais trop de plastique. Je brûlais le plastique dans le jardin avec du feu. Je ne traite pas les déchets parce qu'il n'y avait pas de poubelle de tri dans la ville. Toutes les personnes jettent leurs poubelles dans la rue. Il y a beaucoup de sacs plastiques. Le gouvernement ramasse les poubelles. Les talibans ne font pas beaucoup de choses pour l'environnement. Il y a plus de déchets dans les rues depuis que les talibans sont au pouvoir. Ils sont fermés les industries qui fabriquent des poubelles. Il y a beaucoup de maladies liées aux déchets en Afghanistan. En France, les personnes font attention à l'environnement.
En Somalie, je fais ma course au marché à la brasserie et au supermarché. J'achète en vrac légumineuses, du sucre, de la farine et de l'huile. J'achète en grosse quantité. Le magasin fournit et des sacs en plastique à la chaque fois. Je garde les sacs plastiques à la maison. Car en Somalie, tous les jours, quelqu'un qui a frappé à la porte. Je me sers des sacs pour lui donner un bout de farine, des sucres, de l'huile et des plats qui j'ai cuisiné.
En Iran, je fais mes courses en vrac car il y a beaucoup de magasins dans la ville. J'achète la farine, les produits laitiers, les légumineuses, les légumes, les fruits, les féculents. Je ramène mes sacs en coton et des sacs en papier pour mettre les aliments. Il y a moins d'emballages alimentaires en Iran qu'en France. Et aussi, il y a différentes poubelles pour la plastique, les déchets alimentaires, le verre. Je trie mes déchets, il y a aussi une poubelle pour les fruits et les légumes, un sac pour les plastiques et papier et un sac pour le pain. Le pain est important dans ma religion. Ma mère fait attention aux déchets pour l'environnement car dans ma religion, c'est un péché de détruire l'environnement. Nous devons être très attentifs à la protection de l'environnement pour assurer la santé de notre planète et des générations futures. Dans les banlieues où les poubelles sont laissées dehors, les eaux usées s'infiltrent dans les puits et provoquent des maladies.
Je fais mes courses au supermarché ou au marché car c'est moins cher. Dans le supermarché, il y a beaucoup de produits importés. J'achète en vrac au marché où il y a et des fruits, des légumes, des épices sans emballage. Dans le supermarché, on peut encore acheter des sacs plastiques pour ranger les courses, alors qu'en France, c'est maintenant interdit. Dans mon pays, ça ne fait pas longtemps qu'on trie les plastiques dans les grandes villes. Dans les petites villes, les personnes ne trient pas les déchets. La municipalité s'occupe de déchets. Il y a des règles de tri, mais ce n'est pas toujours respecté. Il y a beaucoup de plastique. Il y a encore des choses à faire. En France, on fait attention à l'environnement et on encourage le recyclage et la réduction des déchets.
On s'est amusé à imaginer ce que l'on ferait si on était présidente et président de la France.
Si j'étais présidente, j'interdirais les boissons énergisantes car c'est très mauvais pour la santé.
Si j'étais présidente, je donnerais des aides financières aux familles pour acheter des fruits et des légumes bio. Si j'étais présidente, je créerais une association pour donner des courses de cuisine saine gratuites aux habitants.
Si j'étais présidente, je contrôlerais les restaurants tous les mois pour vérifier si la nourriture est bonne pour la santé. Si j'étais président, je lutterais contre la malbouffe.
Si j'étais président, je interdirais le soda, les fast-food.
Si j'étais président, je interdirais les chocolats et les gâteaux.
Si j'étais président, je mets du poisson une ou deux fois par semaine dans la cantine, car c'est très bon pour le cerveau.
Si j'étais présidente, je mettrais du compost partout pour recyclage dans l'agriculture. Si j'étais présidente, j'aiderais financièrement l'agriculture biologique. Je mettrais des minots avec des produits locaux et biologiques dans les écoles.
Si j'étais présidente, je rendrais les cantines gratuites et je donnerais des aides pour l'agriculture biologique.
Si j'étais présidente, j'interdirais de jeter des déchets par terre.
Si j'étais président, j'entendrais les publicités alimentaires mensongères.
Nouvelle pause musicale sur Canal B dans l'émission des stagiaires de langue et communication. On écoute Love de Delia Mechler qui sera suivie de The New Thing Die de Reboul.
Of time, slow down, baby. Let the world be our way. Hold on this fire, baby, and we'll know how to desire. I'm no longer alone.
things have stayed the same for so many years, with so many complications, so many tears in all of your situations. If you had me now, would you take me away? If you had the nerve, could you make me stay? Or go, 'cause I felt the love inside this home. Oh, I know that I could lean in, but I could be wrong. 'Cause it was a memory, it was a waste of time. Could it be over now? Be alright. It was a hold up. Could it be yours this time? Take my confession, write it in your lines. There's something new to find. I'm gonna shut my eyes, lay down. I refuse to believe that things are gonna change when things have stayed the same. Ooh, there's nothing left to say. Shut down until it goes away. Say, shut down until it goes away.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B 94.0.
Les stagiaires ont imaginé et ont joué des publicités mensongères autour de la malbouffe. On écoute ça tout de suite.
Salut, tu manges quoi?
Je mange de salade.
Tu es vegan, c'est ça?
Non, je ne suis pas vegan. Je suis flexitarien. Tu connais pas?
Moi, je mange des pâtes industrielles au chocolat et au coca.
Père, c'est pas bon.
Il y a tout dans ce plat. Le plat, le dessert, la boisson et trois en un. Je peux manger en 3 minutes et après j'ai toute l'énergie pour y travailler jusqu'au soir.
Wow, c'est génial.
Avec le pâte coca, chocolat industriel, plus de 13, de prendre une pause trop longue. Vous mangez en 3 minutes. Vous êtes rentable et ne perdez pas votre temps pour des choses futiles, comme vous nourrir. Oui.
Avec les pâtes ou chocolat ou coca industriel, vous serez énergique, efficace jusqu'à minuit.
Tu as encore à chanter des chics. Tu sais que je ne mange pas de chics. C'est grâce. Tu ne me demandais jamais mon avis que tu fais les courses.
Oh, mais chérie.
Moi aussi, je peux décider.
Mais je te promets, ce sont des chips goûtent fraises et mayonnaise. Elles sont ravissantes et délicieuses comme toi. Goûte-les, tu vas retrouver ta forme et ta gentillesse.
Ils sont exquis, mon amour.
Les chips goûtent fraises et mayonnaise avec des conservateurs, des colorants, des additifs. Les chips qui rendent aimable et bonne santé.
Parfait et adorable. Les chips à la fraise mayonnaise redonnent santé et bonheur aux personnes malades, fatiguées et tristes.
Gabriela Dmirtuit.
أنت وناكسن
وجبة هنية
نوشجة
приятного аппетита
شاي خوب
كن هدي
عف مدكون
Buen provecho.
Enjoy your meal.
Bon appétit.
Cette émission est à présent terminée. Vous retrouverez les 2 épisodes en podcast sur le site de Canal B sur le blog des ateliers radiophoniques. Bon week-end, à bientôt. Salut.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.